Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au train. À l'ordre du jour ce soir, la hausse des prix nous fait-elle encore préférer le train? En cette période de vacances et alors que les réservations pour les voyages de cet été se sont ouvertes il y a 3 semaines, y a-t-il d'ailleurs encore des places pour la Côte d'Azur en juillet? La question de la fréquentation des trains en hausse constante depuis la fin de la période Covid, ainsi que celle de la hausse des prix des billets se pose. Car alors que l'ouverture à la concurrence encore très limitée avait été présentée comme une solution, la tarification dynamique mise en œuvre depuis presque 30 ans maintenant par la SNCF trouble le jeu, en ne permettant pas, contrairement à la tarification au kilomètre qui l'a précédée, de planifier pour une famille ou pour un individu le coût de son transport à un moment donné. À cette critique, la compagnie nationale rétorque que la hausse des prix est plus ressentie que réelle. Quelles sont donc les pistes pour que nous préférions le train, slogan des années 1990 de la SNCF? C'est la question que nous poserons à David Valence. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député des Vosges apparenté Renaissance, président de la commission transport de la région Grand Est et président sortant du conseil d'orientation des infrastructures. Vous nous expliquez de quoi il s'agit. Avec nous également en studio, Patricia Pérennez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste spécialiste du transport ferroviaire, en particulier de la question de l'ouverture à la concurrence. Vous avez travaillé pour SNCF Réseau, SNCF, l'Association des régions de France, puis la région Centre-Val de Loire, avant de rejoindre un cabinet transmission. En tant que consultante, vous avez participé à l'ouvrage collectif la SNCF à l'épreuve du 21e siècle, regard croisé sur le rail français paru aux éditions du Croquant en 2021. Et vous venez de publier une note très intéressante dans la revue en ligne AOC sur le prix des billets de TGV. Enfin, troisième invité depuis le Parlement de Bruxelles. Bonsoir, Karim Ladeli.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputée écologiste et présidente de la commission des transports et du tourisme au Parlement européen.
Les Français considèrent que la tarification elle est tellement peu compréhensible qu'elle est assimilée par eux à une forme de ruse pour leur faire payer plus. Auparavant, c'était basé sur un coût au kilomètre. Et donc, plus on allait loin, plus on payait cher. Et donc, quand le TGV s'est lancé, la SNCF a décidé de calquer sa tarification sur celle de l'aérien. C'est-à-dire qu'on n'indexe plus le prix du billet sur le nombre de kilomètres parcourus, mais en fonction d'autres critères, notamment de faire payer beaucoup plus cher les billets au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de départ du train et en fonction d'un certain nombre de critères comme par exemple l'estimation du taux de remplissage en fonction des événements, des saisons, des fêtes de Noël ou autres. Et donc ça s'est imposé très vite et ça a permis de maximiser les bénéfices. Le TGV a longtemps été, et c'est évidemment aujourd'hui à nouveau le cas, la vache à lait du groupe SNCF.
Alors pour ceux qui connaissent sa voix, parce qu'il est spécialiste du transport ferroviaire, il est journaliste, il s'appelle Gilles Dansard, il intervenait en décembre dernier sur la hausse du prix du train, le yield management. Vous pouvez nous l'expliquer, Patricia Pérennez, et en quoi justement ce yield management, qui est une façon justement de faire évoluer les prix en permanence en fonction de l'offre et de la demande, fait penser aux consommateurs que nous sommes donc d'une certaine manière, lui il dit vache à lait, ou que par ailleurs, eh bien on ne comprend pas les prix tels qu'ils sont fixés.
Oui, alors, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que ça fait assez longtemps, c'est depuis les années 90 en fait que c'était mis en place par la SNCF, donc c'est assez ancien, et c'est pas quelque chose qui est spécifique au ferroviaire, on le connaît, et finalement on le tolère beaucoup plus en tant que consommateur pour l'hôtellerie ou pour l'aérien. C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est vrai que c'est très très mal perçu pour le ferroviaire, alors même que c'était mis en place par la SNCF avant Air France.
Voilà, oui, savoir, bien sûr, mais peut-être aussi parce qu'il y a une longue tradition du prix au kilomètre dans la SNCF qui faisait que d'une certaine manière, on pouvait d'une année sur l'autre ou presque programmer ses transports en sachant combien on allait payer au mois à l'été suivant quand on prendrait une voie pour 4 personnes.
C'est qu'il y a aussi une différence entre les TGV qui sont yield managés et puis les TER. Donc il reste des trains qui sont tarifés au kilomètre ou à peu près. Bon, et du coup il y a cette dualité.
À peu près, parce que je crois qu'il existe quelque chose d'un peu semblable pour les.
Il peut avoir des promos, il peut avoir des petits prix, mais il n'y a pas de yield management comme il peut avoir pour le TGV. C'est vraiment incomparable. Il peut avoir des petits prix avec les régions. On peut avoir des tarifications qui diffèrent, mais globalement il y a quand même une certaine logique. Et c'est pour ça. C'est sans doute mal accepté. Voilà. Le but de SNCF aussi, il faut voir pourquoi ils mettent en place du yield management. Parce qu'en fait, si on a des billets qui ont un prix fixe, y a des trains qui vont être remplis très 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 vite. Et du coup, le but, c'est aussi d'inciter certaines personnes, et donc c'est toute la logique derrière le yield management, qui peuvent, comme on dit en bon français des transports, se désorer, changer leur heure de départ, des personnes, des étudiants, des personnes en retraite, de dire, ben, voilà, est-ce que vous pouvez pas partir 3 heures plus tôt, ou bien le lendemain ou la veille, ce qui nous permet de maximiser le remplissage des trains sur toute la journée et pas d'avoir ce phénomène qu'on peut avoir dans d'autres pays comme la Suisse notamment, où le prix est toujours fixe et les trains de pointe sont archi pleins, les gens sont debout et puis il y a des trains qui sont vides et en Suisse on a un taux de remplissage moyen des trains de 30%.
Et pourtant, il y a une satisfaction en Suisse du service justement qui est offert par la compagnie nationale.
Alors c'est marrant parce que quand on parle avec des notamment des voyageurs affaires en Suisse, parfois ils disent ah c'est quoi ce service ? On a été debout en première classe, c'est intolérable. Donc oui, je pense que globalement c'est quand même mieux accepté.
Populaire, voilà.
Mais faut quand même avoir conscience qu'il y a des limites et que c'est pas uniquement pour embêter les gens. Il y a aussi des raisons techniques, qui existent.
Parmi ces raisons techniques, il y a le fait qu'il y a moins de rames ou pas suffisamment de rames sur le réseau et qu'au bout du compte, David Valence, s'il y avait plus de rames, s'il y avait plus d'investissements ou s'il y avait eu plus d'investissements, parce qu'on sait que pour construire une rame, c'est à peu près 10 ans entre le moment où on la commande et le moment où elle est réalisée, eh bien, on aurait peut-être une plus grande satisfaction par rapport à cela. Est-ce que vous saviez, vous, qu'il y avait cette idée, enfin, c'est ce que j'ai vu dans la documentation, qu'il y avait, comme pour la température, un prix réel et puis un prix ressenti, donc température réelle et température ressentie. C'est ce que dit la SNCF en disant, voilà, les gens pensent que ça augmente, mais ça n'augmente pas tant que ça.
Oui, alors, d'abord, il faut bien distinguer ce qui relève du train à grande vitesse et ce qui relève du train régional. Ça a été dit, en fait, seul le train régional en France et le train intercité, c'est-à-dire les trains de longue distance qui sont décidés par l'État, seul cela relève du service public. Le TGV, ça n'est pas un service public,
mais
c'est
ça,
un service
pour le faire comprendre.
Commercial.
Pour le faire comprendre à chacun d'entre nous, c'est la même compagnie, on a quand même beaucoup de mal à comprendre.
Oui, mais c'est un service commercial. Et d'ailleurs, l'argent, les bénéfices qui sont dégagés sur le TGV, ils sont réutilisés par le groupe public ferroviaire, par la SNCF, y compris pour investir sur le réseau ferroviaire. Donc c'est fondamental de le savoir. Quand vous prenez un TER en France, en moyenne, vous payez seulement 30% de ce que coûte le TER à faire circuler. Et quand vous prenez le TGV, en théorie, vous payez 100%. Et c'est ça la grande différence, en dépit des tarifs réduits qui peuvent en effet exister.
Karim Adeli, vous êtes en direct depuis le Parlement de Bruxelles, vous êtes eurodéputé écologiste, et vous avez commandé un livre blanc auquel je crois vous avez participé, Patricia Pérennes, pour améliorer le système ferroviaire français. Qu'est-ce qui, selon vous, mérite d'être amélioré? Parce qu'on parle du prix, on parle du nombre de TGV ou de trains en circulation. Qu'est-ce qui mérite d'être amélioré?
Tout d'abord, il faut repenser le modèle du financement d'infrastructures. C'est-à-dire que le gestionnaire d'infrastructures SNCF Réseau a aujourd'hui deux sources de financement. Les péages qui sont payés par les entreprises ferroviaires pour chacun...
Passer sur leur rail.
Voilà, chacun des trains circulant sur le réseau ferroviaire et les subventions versées par la puissance publique. Et c'est là où en France, l'État participe peu au financement du réseau ferroviaire. Quand on le compare aux autres pays européens, cela montre à quel point chaque année les chiffres fournis par l'association notamment allemande Allianz Pro, et on a cet équilibre où on voit que la France est le dernier ou un des derniers pays qui a investi réellement par habitant dans les infrastructures ferroviaires. Ça, c'est un fait. Et en conséquence, on voit bien qu'il y a cette question de péage. Et on voit que les péages français sont élevés pour le transport de voyageurs en particulier, se payer par les TGV, parce qu'on a aujourd'hui en France un espèce de contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau qui acte une poursuite de l'augmentation continue des péages ferroviaires jusqu'en 2030. Or, c'est là où il y a quelque chose à faire. On a les péages ferroviaires les plus chers d'Europe, c'est le nœud du problème, et ils sont payés par qui ? Soit par l'usager du TGV, qui voit les prix exploser, on voit que 30 à 40% du billet, ou par les régions qui subventionnent le TER, et là on a 20% de la facture qui est payée par les régions. Donc ça pèse sur la demande et les usagers, et ça nous demande véritablement qu'on retourne vers des modes beaucoup plus... Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il faut bien comprendre que si on ne travaille pas pas sur cette question-là de prix, notamment des trains, les gens se retournent automatiquement vers des modes beaucoup plus polluants et qui ont un impact carbone, que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, etc. Et
écoutez, vous ne pensez pas dire la vérité, puisque j'ai reçu juste avant cette émission d'une auditrice, je suis obligé de prendre ma voiture car un aller-retour est moins cher en carburant qu'un billet de train et je passe outre la fatigue et l'impact écologique, disait-elle, elle a 60 ans et elle n'arrive pas à faire un Perpignan-Toulon à un prix raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez, David Valence, puisque vous n'avez pas l'air d'accord avec Karima Deli?
Ben d'abord, quand on écoute parfois l'opinion, on a l'impression que le train, c'est tellement cher qu'on ne peut pas le prendre. Ben, ce n'est pas ce que montrent les chiffres de fréquentation. Moi, je suis élu dans une région où la fréquentation a augmenté d'un peu plus de 15% en 4 ans. On est à plus 36% à l'échelle nationale en fréquentation des trains régionaux. Et il y a eu 122 millions
de voyageurs. Mais les trains régionaux ne sont pas les plus chers.
122 millions de voyageurs dans TGV l'année dernière. Ça n'a jamais été atteint. Donc, la demande est là. Et visiblement, le prix n'est pas d'abord un frein. Moi, je dis souvent, qu'est-ce qui fait que vous prenez le train? La première chose, c'est d'abord que vous êtes sûr, si votre rendez-vous dure un peu plus longtemps chez le médecin, si vous discutez un peu plus longtemps avec votre collègue près de la machine à café en sortant du travail, ou si vous voulez passer un peu plus de temps avec votre fils ou un peu moins de temps avec votre belle-mère, eh bien, vous pouvez rentrer avec un autre train.
C'est pas gentil pour les
belles-mères, mais enfin... Vous pouvez rentrer avec un autre train parce qu'il y a un volume d'offres. Donc, c'est vrai que on pourrait être tenté de dire... le sujet, c'est d'abord le prix. Moi, je crois que le sujet, c'est d'abord l'offre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il manque à peu près une centaine de rames de TGV pour faire plus d'offres de transport.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Quand on sait le temps de fabrication de ces TGV.
Et ça résulte d'un choix stratégique de la SNCF qui est très discutable. Parce qu'on a remisé en France des rames de TGV par avance pour ne pas les rendre disponibles, y compris dans une perspective d'ouverture.
En plus, c'était il n'y a pas si longtemps, cette remise.
C'était il n'y a pas si longtemps. Ça a été du gâchis d'argent public et ça a freiné l'ouverture à la concurrence. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle de problèmes de tarifs de train, on parle beaucoup du TGV et de façon saisonnière. Et pour des familles, notamment, et des familles modestes. Donc, il y a sûrement quelque chose à imaginer pour ces familles, ou à généraliser. Je pense que Patricia en parlera. Mais attention à ne pas transmettre tout le temps ce message d'un prix qui serait trop élevé du train, parce que c'est pas d'abord pour ça qu'on prend cette décision. Et encore une fois, sur ce qui représente quand même une grosse partie de l'offre de transport, c'est-à-dire les trains transilien ou régionaux, dans lesquels il y a plus de monde que dans les TGV, beaucoup plus toute l'année, eh bien, c'est pas d'abord le prix le problème, c'est d'abord le volume d'offres. Faisons rouler plus de trains et on aura plus de voyageurs.
Alors, je sais pas, moi, il y avait, c'était une invention, je crois, de Léo Lagrange dans les années 30, au moment du Front Populaire. Il y avait le billet, justement, qui permettait d'avoir le billet de vacances, qui permettait d'avoir une fois par an un billet de train très peu cher pour les gens qui avaient des difficultés financières et qui étaient les plus pauvres. Ça existe encore, mais enfin...
C'est même pas ça, parce que là, moi, je rejoins tout à fait ce qu'il y a, Monsieur Valence. Il y a un Patricia problème Pernas. Uniquement, enfin, surtout, sur les TGV, et surtout en période de pointe pour les familles. Parce que quand on me dit que le train est cher, est-ce qu'on parle du TER, est-ce qu'on parle du RER? Non. C'est très rare qu'on parle de ces trains-là. En général, on parle du TGV en période de vacances. Et on me dit toujours, oui, mais regarde pour les familles. D'accord. Donc, en fait, il faut pas forcément baisser le prix du TGV en général, parce que sinon, on va subventionner notamment la mobilité professionnelle des cadres qu'ils déplacent, voilà, pour des réunions. Le problème, c'est pour des familles. Et en effet, il existe le billet congé annuel qui avait été instauré donc par Léo Lagrange en même temps que les congés payés, donc avant la création même de SNCF. Donc, il y a fort fort longtemps. Le problème aujourd'hui, c'est que déjà la réduction est pas énorme. Elle est plus que de 25%.
25%.
Sur le tarif maximum.
Exactement. Sur le tarif maximum. Donc ça sert.
Donc c'est pas. Ouais. Et en plus, il y a des tas de paperasserie à faire. Il faut faire signer un truc par l'employeur, le scanner, l'envoyer à SNCF. Donc voilà. Et comme aujourd'hui le problème c'est la pénurie, c'est-à-dire que si vous voulez partir le samedi des vacances, voilà, vous n'avez pas le temps d'aller voir votre employeur, de faire 3 formulaires, parce que le train il sera plein probablement. Donc je pense que plutôt que dire il faut baisser le prix du TGV en général, ce qui revient à subventionner la mobilité des cadres supérieurs
et des plus riches donc.
Et donc des plus riches. Si on veut rendre si le but c'est de rendre le train populaire, y compris le TGV, et qu'on parle du droit aux vacances, ben pour ça il y a un tarif social qui existe. Il faut le toiletter, il faut le remettre à jour et il faut le rendre plus intéressant.
Karima Deli.
Moi, je suis pour qu'on change d'échelle. C'est-à-dire que je crois que je suis d'accord avec David Valence que je connais bien, mais je suis d'accord sur la question de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas à la hauteur. L'offre ferroviaire en France, et en particulier pour les trains du quotidien, est nettement plus faible que celle d'autres pays européens. Souvent, on a l'exemple de la Suisse, mais c'est vrai, on peut regarder aussi en Allemagne. Pour chaque ligne de train, il y a des circulations tout au long de la journée, contrairement par exemple en France, où l'offre est parfois réduite à quelques trains sur la journée, juste sur des heures de pointe, le matin et le soir. Et donc, il y a une faiblesse relative qui est de l'offre en France, qui apparaît très clairement quand on regarde qui roule et qui ne roule pas. Donc ça, c'est la première chose. On est d'accord, il faut un choc d'offre de timbres dans les trains. La deuxième chose sur laquelle...
Alors, choc d'offre qui permettrait justement à la fois une plus grande fréquentation et une baisse des prix.
C'est là où ça devient très intéressant, c'est-à-dire que, il faut absolument mettre en avant le fait qu'on aurait plus de fréquences, donc la fréquence va être un des éléments essentiels pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de trains, mais ensuite, Patricia l'a un peu dit, on a déjà aujourd'hui des dispositifs de tarification, mais il faut mettre en place des vraies tarifications attractives. Il y a de nombreuses études qui montrent que les Français et les Françaises perçoivent le train comme un mode de transport onéreux. Et la situation, elle varie selon le type de train. On l'a dit, entre le TGV et le TER, c'est pas pareil. Il y a les abonnements qui sont différents, les cartes de fidélité qui sont différentes. Et ensuite, on n'a pas la même tarification, même selon les régions, vous voyez. Donc ça nous invite toutes et tous à regarder ce qui se passe un petit peu du côté, notamment de nos voisins. C'est la raison pour laquelle, moi, je porte et je m'inspire de nos voisins. Et je milite pour que dans quelques mois, ou dans quelques... là, très prochainement, on ait un ticket climat à la française.
Ça existe. Ticket climat, vous appelez ça ticket climat, les autres appellent ça passerail. C'est quoi? C'est la même chose ou c'est différent?
Alors, non, c'est pas la même chose. Parce que le ticket climat vous permet d'avoir un abonnement, comme en Allemagne, comme en Autriche, un abonnement de 49 euros par mois, illimité. Vous pouvez prendre tous les TER que vous voulez, et également les transports en commun, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, par exemple.
Oula, mais ça veut dire qu'il faut s'entendre avec le STIF en région parisienne, la SNCF d'un côté, et tous les gestionnaires des transports régionaux. Ça va pas être si simple que ça, Karim Adeli.
Ça sera pas simple, mais en même temps, moi j'ai fait un livre blanc, et dans ce livre blanc, on montre une méthode qui dit que pour l'instant, il est vrai que l'Île-de-France est saturée. Donc, pour faire le choc de mobilité, le choc d'offre, ça va être un peu compliqué, donc il faut regarder de manière très précise comment on va faire. Mais si on regarde les autres régions, si je mets en place ce fameux ticket climat à la française, qui est une vraie solution, ça permettrait à des milliers d'usagers d'emprunter le train, mais également les transports en commun, etc. La somme, elle est que de 3 milliards d'euros, ce qui n'est pas grand-chose, au fait. Et ça permettrait de tout revoir, c'est-à-dire quand vous faites ce choc de mobilité, vous êtes obligé, hop, tout de suite, de lancer le plan de rénovation, hop, tout de suite d'embaucher, hop, tout de suite d'être dans une cadence réelle pour le train. Ouais. Parce que le problème, il est, on attend toujours, à chaque fois en France, on attend d'abord qu'on ait la demande, que les gens aient envie, etc., pour faire quelque chose, pour rénover, etc. Absolument pas, il faut absolument qu'en Allemagne... Ils ont fait l'expérimentation sur 3 mois de 9 euros et la demande était telle que les pouvoirs publics ont sorti un plan d'investissement de 96 milliards d'euros. Et là, vous pouvez voir que tout est dans une logique de prospective pour faire de ce train un train accessible, un train fréquent, mais un train à l'heure. Et ça, c'est très important.
Oui, David Valence, choc. Alors, il y a le choc de simplification. Alors là, le choc, effectivement, du train tel que l'imagine Karim Adeli. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en quoi c'est différent du passerail qui a été, je crois, négocié très récemment, justement, en particulier avec les régions?
Bon, d'abord, sur les tarifs, tout ce qui va dans le sens de la simplicité va dans le bon sens. Ça, il faut le dire.
Et je pense qu'il faut... Parce que c'est là où les gens s'arrachent les cheveux.
Il faut le dire plus encore que de parler du prix. Je crois même qu'il y a un effet dissuasif. À force de raconter partout, en confondant le TGV avec le train régional, que le train est cher, il y a beaucoup de gens dans nos territoires qui disent « c'est pas pour moi » et qui prennent même pas le réflexe de vérifier combien ça coûte de façon effective.
Alors, il y a le train est cher et il y a la cadence, comme le disait Karim Adeli, qui mériterait d'être quand même un peu accélérée.
Oui, alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trains qui roulent. Ça aussi, c'est une idée reçue. Il y a beaucoup plus de trains qui roulent dans nos régions aujourd'hui qu'il y a 20 ans dans la plupart des cas. On a en moyenne en France une hausse de l'offre, je le disais, de 13% ces cinq dernières années. Dans ma région, c'est 25% de trains en plus.
Le Grand Est.
On n'a aucune ligne dans le Grand Est opérée par le Grand Est où il y a moins de 8 allers-retours par jour. Donc on est sur un minimum d'offres qui est et on a des lignes qui sont à 25-30 allers-retours par jour. Alors, et là, on finit par avoir.
Je ne vous raconte pas les petits messages qu'on a reçus de ceux qui sont qui fréquentent la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, qui disent c'est pas assez. Parce que
c'est une des lignes régionales les plus fréquentées de France. Et ça fonctionne, il y a plus de 10, 12 000 personnes tous les jours qui prennent ce train.
Et qui en sont pas tout à fait contents.
Et c'est, oui, alors c'est toujours ceux qui sont pas contents qui écrivent. Ce qui est sûr, c'est que, il y a pas de fréquence telle dans la plupart des régions françaises sur plein de lignes régionales. C'est vraiment un exemple à part et qui est lié au développement, de l'attractivité transfrontalière. Donc, honnêtement, la région Grand Est, la singularité, c'est qu'en nombre de voyageurs tous les jours, c'est l'équivalent de la région Occitanie additionnée à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est presque 200 000 voyageurs tous les jours dans les trains.
Oui, vous vouliez rajouter quelque chose,
Patricia Pérez. Oui, moi, c'est pour abonder dans ce qui vient d'être dit. C'était intéressant, Nouvelle-Aquitaine Mobilité avait fait un sondage pour demander aux gens qui prenaient le train, pourquoi ils prennent le train, et aux gens qui prennent pas le train, pourquoi ils prenaient pas le train. Les gens qui prenaient le train disaient parce que c'est pas cher, c'est moins cher qu'une voiture, et les gens qui prenaient pas le train disaient parce que c'est trop cher. Et si on leur posait la question, ils disaient, mais en fait, je me suis pas renseigné. Et en effet, cette complexité, je pense, entraîne le fait qu'ils ne connaissent pas, et du coup, qu'ils surestiment. Et la question de l'offre, c'est pas négligeable, voilà, parce que moi, dans ma région, parfois, il y a 5 trains par jour, et 5 trains par jour, ça paraît comme ça beaucoup, ça veut dire qu'il y a un train à 7h, un train à 8h, un train à midi, un train à 17h et un train à 18h. Donc vous avez intérêt à être lycéen, fonctionnaire, vous n'avez pas intérêt à travailler dans un hôpital en 3-8, vous n'avez pas intérêt à travailler dans un café, parce que sinon l'offre de train, elle n'est pas pour vous. J'ai pris le train tous les jours entre Bourges et Orléans, et on était quasiment que des fonctionnaires à prendre ce train tous les jours, parce qu'on avait des heures de travail qui permettaient ça.
Oui. Et puis, quand on pense au train, on pense toujours aux allers-retours pour le travail. Mais aujourd'hui, une majorité des déplacements ne se font pas pour le travail. Nous, on a des lignes en Grand Est dans lesquelles il y a plus de monde le samedi que des jours de semaine. Il faut jamais oublier que la plupart des déplacements qu'on fait, même dans une semaine, sont des déplacements pour aller consommer du loisir, pour aller voir ses proches, plus que simplement pour le travail. Ne pensons pas les offres de transport uniquement en fonction des déplacements de travail.
18h42 sur France Culture, le temps du débat. La hausse des prix nous fait-elle encore préférer le train? Nous sommes en compagnie de David Valence, député des Vosges apparenté Renaissance. Vous venez de l'entendre, de Karima Deli qui est en duplex depuis le Parlement de Bruxelles. Elle est députée écologiste et elle a fait un rapport, un livre blanc sur la question du transport, en particulier le transport par train. Et Patricia Pérennes est avec nous, elle est économiste spécialiste du transport ferroviaire.
En Italie, il y a eu une réduction des péages de 38% en 2015 et cela a permis en fait de plus que doubler l'offre ferroviaire et une réduction de prix entre 30 et 40%, avec des bénéfices énormes pour tous les voyageurs en termes de qualité, en termes d'offre de train, de satisfaction client avec l'ouverture de la concurrence cela a permis aussi de favoriser l'accélération de la transition écologique. La réduction des péages donnerait la possibilité d'augmenter l'offre ferroviaire et en même temps la possibilité de réduire les prix pour le voyageur. Mais l'ouverture de la concurrence permettrait en fait d'être complémentaire par rapport à l'offre actuelle. En fait, la réduction des péages permettrait de donner des bénéfices énormes à tout le système ferroviaire, sans pour autant impacter sur le modèle économique de gestion de l'infrastructure, parce que la réduction des péages serait plus que compensée avec une offre de train.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Roberto Rinaldo, président de Trenitalia France, c'était le 23 octobre dernier sur BFM Business. Quoi, j'entends, Karima Deli, qu'une députée écologiste, une eurodéputée écologiste, est d'accord avec cette ouverture à la concurrence, puisqu'il critique lui aussi le prix des péages.
Non, je ne suis pas. On devrait faire une émission exprès sur l'ouverture à la concurrence, mais sur la question des péages.
Ah, il faut le dire quand même. Oui, cette question de l'ouverture à la concurrence, c'est pour ça que nous avons passé cet extrait. C'était important tout de même.
Absolument, et je pense que l'ouverture à la concurrence aujourd'hui est un vrai grand sujet, mais sur lequel aujourd'hui il y a plein d'entreprises autres que les nôtres qui ne veulent pas venir de toute manière parce que nous n'avons pas un réseau à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il parle des péages. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des péages qui sont élevés qui conduisent à augmenter le coût des transports ferroviaires et ça pèse in fine sur la demande. Donc, quand tout à l'heure j'entends le prix élevé des billets de TGV, c'est on détourne une partie des voyageurs vers d'autres modes de transport, notamment, je le dis, hein, les voitures individuelles, l'avion, etc. Parce que les péages représentent pour certaines lignes 30 à 40% du prix du billet. Or, le coût élevé des TER pour les régions, ça les empêche, parce que leur budget n'étant pas extensible, d'augmenter le nombre de trains. Et in fine, on voit bien que ces péages élevés ne permettent pas la mise en place nécessaire du choc d'offre qu'on a dit tout à l'heure. Je tiens à redire que les chiffres sont là. Hein, en 2019, les péages représentaient plus de 18% du coût des conventions TER. Ça veut dire que sur cette question, si nous devons véritablement faire aimer le train demain, il faut repenser le modèle du financement de l'infrastructure. Et je voudrais juste redire tout à l'heure quelque chose qui a été dit. Tout à l'heure, David Valence, il dit « bah oui, il y a plus de trains aujourd'hui, etc. » C'est vrai. Et tant mieux. Mais par exemple, c'est très différent selon les régions. Je vous donne ma région, les Hauts-de-France. 11 000 trains ont été supprimés en une année. 11 000 trains. Donc 11 000 trains,
c'est quoi,
ça veut
11 000
dire...
cadences ou c'est quoi?
Non, c'est 11 000 trains. Vous voyez, ça veut dire que des trains sont supprimés. Ça veut dire des gens qui vont à la gare. Et du fait qu'on n'a pas anticipé, du fait qu'on n'est pas dans une prospective d'un vrai plan ferroviaire en France, ben, y a plein de gens qui vont dans les gares et qui ont un peu la boule au ventre en disant « Est-ce que mon train va être supprimé ou pas ? Est-ce que je vais devoir garder les enfants ? Est-ce que je vais devoir pouvoir aller à l'école ou à la fac ? Est-ce que je vais... » Bref, des situations de vie qui font que si on ne règle pas cette question, notamment de fréquence, et réellement d'une véritable politique de rénovation et de faire que le train soit prioritaire dans notre pays, on va encore plus, malheureusement, créer des précaires de la mobilité. Il y a énormément de gens qui ont besoin du train. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 13 millions en France. Et vous voyez, la carte des Gilets jaunes, quand vous la prenez, c'est la carte notamment où on a supprimé des lignes. Donc moi, ce que je dis, c'est que oui, il est grand temps de faire des chocs d'offres dans le ferroviaire, de la mobilité, mais venir travailler sur réellement un plan d'investissement. Et ce plan d'investissement, nous devrions tous être d'accord.
Sur ce point, plutôt sur le point de la concurrence, Patricia Pérennes, parce qu'on nous a dit, voilà, on ouvre à la concurrence, c'est aussi pour ça que la SNCF doit se remplumer, parce qu'elle a trop de déficits, il faut absolument qu'on puisse investir pour pouvoir ensuite être face à une concurrence qui va être terrible. Qu'est-ce qu'on en sait de ça pour l'instant, de la concurrence et de l'ouverture à la concurrence? Ça n'a pas l'air... Enfin, il y a la RENFE qui monte depuis l'Espagne jusque vers la Provence. Il y a Trenitalia qui remonte jusqu'à Paris depuis l'Italie. C'est pas non plus considérable. Et ce que dit justement à l'instant même Karim Adeli, c'est que peut-être c'est parce que ça coûte trop cher de mettre des trains et le réseau n'est peut-être pas en suffisamment qualifié.
C'est pas étonnant. Si on regarde d'autres pays européens qui ont ouvert à la concurrence, en fait, les entrées sont très progressives. Donc, faut pas non plus se dire, oulala, en France, on est atroce, y a pas de concurrence, regardez ailleurs. Non. Enfin, on dit toujours regardez ailleurs en Italie. En effet, il y a eu de la concurrence. C'est d'ailleurs un des seuls pays, c'est le seul pays où il y a de la concurrence en grande vitesse avant que la concurrence aussi arrive en Espagne. Mais en Espagne, c'est très particulier, ils ont fait un système d'appel d'offres, ils ont vraiment forcé l'arrivée de la concurrence. C'est toujours progressif parce que c'est un secteur qui est très capitalistique. Pour rentrer sur le marché ferroviaire, il faut avoir 1 milliard d'euros.
C'est pour ça d'ailleurs que Railcop, on a fait plusieurs émissions ici même, on le regrette presque aujourd'hui, sur la question de Railcop, cette coopérative qui permettrait de gagner le sud-ouest jusqu'à Lyon, ça a fait faillite, c'est terminé.
Ça devrait faire faillite, on saura plus d'éléments lundi, mais oui, en effet, c'est exactement le type d'acteur qui, voilà, on pense qu'à coût d'action à 100 euros, on va pouvoir lever 1 milliard, et en fait, c'est pas vrai. Il faut beaucoup de capital, et c'est très compliqué d'entrer, et c'est pour ça que la concurrence, elle est progressive. Et donc, oui, il y a de la concurrence contre SNCF entre Paris et Lyon, entre Lyon et puis Perpignan, avec RENFE, mais ça reste très marginal, et donc la conséquence est pas énorme, on est bien d'accord. Mais c'est normal, une fois de plus, c'est progressif, c'est le marché qui veut ça.
Alors, ces investissements que veut faire la SNCF, puisque dans un article récent du Monde, Sophie Fay disait, rapportait les propos de Jean-Pierre Farandou, qui est le PDG de la SNCF, qui disait, ça y est, nous avons gagné la bataille des idées. Donc, 100 milliards sur 15 ans, 67 milliards sur les nouveaux projets, 35 milliards pour rajeunir le réseau, qui visiblement a un problème de vieillissement, en particulier avec les liaisons régionales, etc., où c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il en est justement de cet investissement nécessaire et de la capacité que ça aurait à peut-être à la fois augmenter les cadences des trains et aussi à faire baisser les prix? Qu'est-ce que vous en pensez, David Valence?
D'abord, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que quand on parle d'investissement en plus par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, ça n'est pas pour rouvrir des lignes ferroviaires fermées parfois depuis des décennies. Je rappelle que la grosse partie des fermetures de lignes de train en France...
Donc vous pensez que Paris en Praïcop, c'était une erreur?
Non, c'était pas des ouvertures de lignes. C'était faire rouler des trains sur des lignes qui existent, mais sur des liaisons qui n'existent pas. C'était ça, Praïcop. C'était pas ouvrir des petites lignes ferroviaires. Je rappelle que l'essentiel des fermetures de lignes ferroviaires en France au XXe siècle, elles se sont faites à l'époque de la SNCF.
1938.
Et essentiellement dans les années 70-80, pas tellement finalement depuis une dizaine d'années, contrairement à une idée reçue. Donc quand on dit il faut plus d'argent pour investir dans le ferroviaire, c'est sur les lignes qui existent. Parce que il y a eu une forme de préférence pour la grande vitesse dans les années 80-90 en France.
C'est pas...
Et encore aujourd'hui, ça occupe toujours une grande partie des réflexions
y compris des élus locaux.
Y compris des citoyens. Alors que on a laissé se dégrader
le réseau secondaire
structurant et le réseau des petites lignes ferroviaires, mais y compris les lignes sur lesquelles il y a 10 000 personnes qui passent aujourd'hui en France. Je pense, si vous prenez Épinal-Nancy, c'est une ligne régionale sur laquelle il y a énormément de monde qui passe tous les jours, vous avez 180 millions d'euros d'investissement à faire, sinon dans 10 ans, ça s'arrête. Et donc, ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens, c'est que on a besoin de cet investissement. C'est pas sexy d'expliquer qu'on va investir sur quelque chose qui existe. Mais si on ne le fait pas, ça cessera. Donc c'est ça aujourd'hui, la pente de l'investissement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces dernières années, on a investi plus. C'est indiscutable. Aujourd'hui, en régénération, c'est-à-dire vraiment sur des lignes qui existent, on est à 3 milliards d'euros, un tout petit peu plus maintenant. C'est beaucoup plus qu'avant. Donc le vieillissement du rail est stoppé, mais on n'a pas encore réussi à le rajeunir. Et donc, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de pédagogie aussi. Parce que moi, je plaide depuis des années avec Karima, avec beaucoup d'autres personnes, pour qu'on investisse plus dans le rail. Mais à chaque fois qu'on se tourne, y compris dans des débats publics face à des citoyens, ils nous disent « Ah ben attendez, rouvrez telle ligne, rouvrez tel endroit. » Alors qu'il s'agit d'abord d'investir plus pour pouvoir faire rouler plus de trains sur les axes qui existent aujourd'hui. Et ça, il faut bien l'expliquer.
Mais est-ce qu'il faudrait baisser, comme certains pensent, la TVA sur les billets, par exemple? Est-ce que ça aura un effet de 10% à 5,5%, ça changerait tout?
Bah, écoutez, la baisse de la TVA sur les billets, notamment les billets régionaux, ça a été proposé il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, ça suppose que le prix des billets régionaux est trop élevé. Donc honnêtement, c'est ça part d'un mauvais raisonnement.
Et pour vous, Karima Deli?
Moi, je pense qu'il faut d'abord se questionner sur le vrai plan d'investissement, parce que là, on a parlé des 100 milliards d'euros. Donc, j'espère qu'ils vont arriver, parce que là, on en a vraiment besoin. Hein. Et comme le dit très bien, puisqu'en plus, on les a prônés hein, dans le comité d'orientation des infrastructures, comme l'a très bien dit David Valence, la véritable question, elle est que si nous ne faisons pas attention à rénover régulièrement nos lignes, plus on tarde et plus c'est cher. Et plus c'est cher, et ben plus on aura tendance à laisser mourir certaines lignes. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc maintenant, nous devons financer ce transport ferroviaire, mais en faisant contribuer, moi je considère, les autres modes polluants. Il est grand temps, par exemple, j'ai fait adopter au niveau européen une redevance poids lourd. Je rappelle que ça avait été envisagé en France, bon, ça a été abandonné, mais dans les autres pays européens...
Ou le kérosène sur les avions, c'est ça?
Voilà, ou alors... Alors, je pense que les concessions d'autoroutes ne vont pas arriver avant 2032, mais ce que je prône, c'est par exemple, en Europe, nous avons un Green Deal, vous voyez? Ce Green Deal...
Qui a été mis à mal récemment.
Voilà, il existe. En même temps, après le Covid, on a su faire un plan de relance. Pourquoi personne ne prône un plan de relance, notamment du ferroviaire au niveau européen? Parce que demain, ce réseau transeuropéen qui existe aujourd'hui méritera une politique industrielle, des filières, méritera que partout en Europe, on ait des trains de nuit. Donc là aussi, il y a des filières. On a besoin d'un plan de relance réel sur cette politique ferroviaire. Vous parlez de la taxe kérosène, bah oui, mais à chaque fois, on nous dit, mais c'est l'Europe. Sauf que pour l'instant, on n'a pas la majorité. Donc, si on peut aussi se dire que sur des billets d'avion, on pourrait aussi financer quelque chose. Et ensuite, il faut absolument prendre en compte les externalités négatives.
Bien
c'est
sûr.
Quand même quelque chose qui est grand temps de prendre en compte.
Patricia Pérennes.
Alors moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit notamment sur le réseau, mais je pense que ça vient quand même dans les débats publics, parce que par exemple, Limoges et Clermont-Ferrand, ils comprennent très bien ce que c'est d'investir dans le réseau structurant et d'arrêter de regarder pour le TGV. Voilà, moi j'habite dans une ville qui s'appelle Bourges, il y avait à un moment une fascination pour l'arrivée du TGV,
capitale
de la culture, voilà, mais on ira en TER et ça sera très bien. Et je pense voilà, plus à Bourges, plus qu'un TGV qui arrive 4 fois par jour, on a besoin de TER fréquents sur un réseau en bon état. Et donc voilà, je rejoins ce qui a été dit. Priorité, rénover l'existant. Priorité, mettre plus de trains. Après, on espère un jour pouvoir réouvrir des petites lignes comme autour d'Épinal. Mais faut être réaliste. Je pense qu'il faut être réaliste parce que même avec les 100 milliards, on va ralentir le vieillissement. On n'arrivera pas à rouvrir les petites lignes en France ou à construire des infrastructures de grande vitesse partout.
Est-ce qu'on a un regard en tant qu'homme politique, David Valence, disons un peu critique sur ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire d'avoir laissé justement cette idée, enfin que tout compte fait, ce rail pouvait se déliter sans que ça gêne personne. Évidemment, on n'avait pas pensé au réchauffement climatique dans ces années-là.
Bon, ce qui est sûr, c'est que dans le regard qui était porté sur le ferroviaire il y a 20 ou 30 ans, la question climatique était absente. C'est très frappant sur le sujet du fret ferroviaire, c'est vrai aussi sur le transport de voyageurs. En fait, pendant très longtemps, le train s'était d'abord regardé comme une façon d'aménager le territoire. Et donc, dans la mythologie française, ce qui était important, c'était le lien avec Paris et donc la grande vitesse. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
Et est-ce qu'on a des nouvelles du pass rail? On en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas dit. On a vu qu'il y a eu des allers-retours entre le gouvernement, M. Vergriette et les régions. Qu'est-ce qu'il en est alors, de ce pass rail? Il va être mis en œuvre et quand?
Je crois que l'accord a été conclu et que ça permettra dès cette année d'entrer en vigueur. Au-delà de l'effet, si vous voulez, de tarifs, j'insiste là-dessus.
On sait à quel prix? On ne sait pas encore.
On sera a priori à 49 euros, mais moi, ce qui est vraiment important, c'est de dire que ça ne concerne que les jeunes et c'est que 3 mois. On est parti d'une promesse qui était de dire pour les gilets jaunes, pour les gens qui sont contraints par leur voiture, on va faire les inciter à faire du report intermodal, à les jeunes français vont pouvoir découvrir la France. Voilà, je dis toujours, on est passé des gilets jaunes à l'éducation civique. On a quand même perdu une certaine ambition, voilà, sur ce passerail, qui est une bonne chose. Hein.
David Valence.
Le sujet, je pense, c'était moins l'effet tarif, c'est que la simplicité.
Oui,
et ça, je pense que ça, c'est important le pass-rail parce que c'est.
Donc c'est une façon de.
49
euros par mois, c'est ça?
Et c'est une façon.
Pendant 3 mois.
C'est une façon de dire on va aller vers plus de simplicité pour se déplacer de région à région. C'est un début. Et forcément, quand on pose des jalons, c'est parfois insatisfaisant, mais c'est important.
Il faut rajouter aussi la simplicité des prix aussi, parce que c'était notre question. Il faudrait un jour ou l'autre qu'on comprenne exactement comment tout cela fonctionne, parce que là, c'est encore un peu compliqué. Merci.
Mais la leçon d'aujourd'hui, c'est que le train, ça n'est pas cher en France, le train régional notamment. Et que pour le TGV, on va essayer de trouver des solutions pour les familles l'été.
Ah ben ça, on peut l'espérer en tous les cas, l'été et peut-être pendant les vacances de l'année. Merci beaucoup à vous, David Valence. Je rappelle que vous êtes député des Vosges Apparenté Renaissance et président de la commission transport de la région Grand Est et président sortant d'un conseil d'orientation des infrastructures. Peut-être vous serez encore là dans quelques mois, mais on ne le sait pas encore. Karima Deli, merci d'avoir été en duplex depuis le Parlement de Bruxelles grâce à Jérôme Roland au Parlement, qui était le technicien qui vous accompagnait. Vous êtes eurodéputée écologiste, présidente de la commission des transports, du tourisme du Parlement européen, et vous avez conçu un livre blanc autour de cette question du transport en train. Et merci à vous, Patricia Pérennes, d'avoir été avec nous. Vous avez participé à l'ouvrage collectif La SNCF à l'épreuve du 21e siècle aux éditions du Croquant en 2021. Et vous avez publié une note dans AOC, sur le site en ligne AOC, sur le prix des billets de TGV. C'était le temps du débat, préparé par Fanny Richer, Roxane Poulain, Mathias Mégy, Anouk Sévenot et Bruno Barada, réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Noé Chaban.